France, 1er février 1994. Un homme, du nom de Jacques Toubon, alors ministre de la Culture et de la Francophonie, crée une loi. Celle-ci impose aux radios du pays un minimum de 40% de musique d'expression française. Un lundi sur deux, de 20h à 21h sur Radio Campus Tours, de braves bénévoles,
ils sont pas payés,
se sont donnés pour mission de faire respecter la loi. Ils ont créé pour cela une émission, avec des sélections musicales, des actualités et des rencontres avec les artistes.
Trop la classe.
Son nom, le quota.
Merci d'avoir choisi Radio Campus Tours, il est 20h, bienvenue dans Le Quota, l'émission des musiques francophones de Radio Campus Tours. Salut Anthony, salut Mélissa.
Salut Yann, salut Mélissa.
Salut Yann, salut Anthony.
Alors il n'est pas exactement 20h puisqu'en fait on n'a pas pu exploser le studio aussi tôt que l'on voulait. Mais au programme, comme toujours, ce soir, les dernières sorties musicales francophones choisies donc par l'équipe. Et également une interview de Didier Doc Pilote, alias Doc, figure de la vie musicale tourangelle et cofondateur du groupe X-Ray-Pop qui a notamment inspiré les Beastie Boys. Rien que ça, beaucoup d'anecdotes à venir dans cette émission. On commence avec la sélection d'Anthony.
Ouais, c'est la scène locale et j'ai un grand plaisir ce soir. Et je te remercie Yann d'avoir permis de choisir ce titre, puisque c'est un titre mi-français, mi-anglais, donc j'ai une dérogation pour cette fois-ci. C'est un projet que j'ai découvert il y a peu, qui est composé de Laure Bernot et de Étienne Faguet. Il s'agit de pop, de voyage, électronique et sauvage. Après deux premiers EP, ils ont été l'un des groupes lauréats du dispositif Le Fer en 2019. Ils font désormais quelques chansons en français. Le prochain EP sortira en janvier prochain et on vous propose d'écouter C'est merveilleux. Et allez regarder également le très beau clip qui est sorti vendredi dernier, tourné à Shanghai. Voici Toucan, 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 c'est merveilleux.
Modest club, have some troubles with the bumps, they drunk me more. I think the effects are gone, why walk so fast? I've got hits and my feet hurt, just need to dance some more. The world gives me some fun. With my friends and the rhyme, we will hang out in the club. Yes, I'm drunk, I show my face. Get out of there, I'm here to dance. Je ne suis pas là pour la drague. Dans ma tête, c'est merveilleux. Lâche-moi ou je fais un scandale. Dans ma tête, c'est merveilleux.
Le Quota, le magazine des musiques francophones de Radio Campus Tours.
Pardonne-moi de ne pas avoir ouvert la porte pour toi. Pardonne-moi de ne l'avoir jamais ouverte, celle-là. Pardonne-moi de t'avoir laissé dans le froid. Pardonne-moi, j'ai des choses à faire dans lesquelles tu n'es pas. Pardon d'avoir laissé ta guerre et ton histoire loin de moi. Pardon d'avoir peur de ton air et de l'allure de tes bras. Je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Vous êtes tous du même ventre et avez tous la même voix. Pardonne-moi et mes principes et mes envies de sauveur. Pardonne mes jours de soleil et surtout pardonne mes peurs. Le temps me manque, je suis désolée. Je cours après, tu cours pour me parler. Plus tard il faut que j'aille travailler. Le temps file, tu ne comprends pas. Pas le temps pour toi. Je t'ai apporté à manger. J'espère que je t'ai réchauffé. Il faut que je rentre chez moi. Et surtout ne me suis pas. Je reviendrai quand il y aura du monde pour faire parler de mes bonnes actions. Jusqu'à ce qu'on me dise, me réponde, merci de ta considération. Pardonne-moi d'avoir fait semblant d'être là vraiment. Pardonne mes sourires crispés quand je te crois sur le pavé. Pardonne mes pièces de monnaie qui manquent quand tu veux les toucher. Pardonne mon regard fuyant pour éviter de pleurer. Ne surtout pas voir ton regard pour oublier, puis pour croire que je ne t'ai pas vu, que je ne t'ai pas reconnu, que tu n'es pas dans la rue, que tu es resté inconnu. Ce matin est un matin normal dans lequel je veux tracer mon banal. Je ne veux pas me réveiller dans tes yeux. Pardonne-moi ma vieille, pardonne-moi mon vieux. Ce matin est un matin normal dans lequel je veux garder mon banal. Je ne veux pas me réveiller dans tes yeux. Pardonne-moi ma vieille, pardonne-moi mon vieux. La la la.
Le titre que nous venons d'écouter nous vient d'Elisa Erka, artiste aux multiples qualités, puisque Elisa est d'abord une comédienne connue sous le nom de Elisa Roche. On la voit apparaître dans des films français tels que La Rupture pour tous ou encore Timing. Elle a deux EP à son actif, c'est un style pop, chanson française, et son dernier projet, un album, est sorti ce 20 septembre. Nous avons écouté le titre Pardonne-moi, abordant un sujet délicat de notre société, celui des migrants, où Elisa nous a exposé en chanson son impulsion. Puissance.
Tu veux sortir, rencontrer du monde, danser ou tout simplement poser un lapin à tes amis? Ça tombe bien, voici l'agenda des sorties.
Et l'agenda concert donc pour les prochains jours avec jeudi soir une date au temps machine, la release party de Thé Vanille avec équipe de foot. On retrouvera également le lundi 4 novembre au Kubrick Hyperculte et Drame. Et à noter la présence de Paul Persson à l'espace Malraux le mardi 5 novembre prochain.
Merci Mélissa, merci Anthony. Je propose maintenant que l'on aille directement vers notre interview de Didier Dogpilot, donc, qui a cofondé le groupe X-Ray Pop. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas X-Ray Pop, voici un petit rappel.
Dans un flot de murmures vers les terres éclatées du repos éternel. La machine a rêvé, a saoulé le réel, dépassant l'immortel via la réalité. La machine a rêvé, a dépassé le temps, saluant l'éternel près du pays des dieux.
fondé en 1984 X-Ray Pop, un groupe tourangeau psychédélique et avant-gardiste qui a inspiré les Beastie Boys. À l'occasion de la sortie du livre qui fait le récit de cette histoire musicale, Didier Dogpilot nous a raconté cette époque et de délicieuses anecdotes à travers un entretien fleuve. Je vous laisse profiter de l'interview après le morceau qu'on a donc écouté qui s'appelait La Machine à rêver. Bonjour Didier, comment ça va?
Ça va bien. Pendant cette matinée, tourangelle, ensoleillée.
C'est pas souvent qu'on fait des interviews le matin. Et puis à domicile, j'avoue. Merci pour ton accueil.
Ah ouais, non, merci de ne pas m'avoir fait déplacer. C'est normal à mon grand âge. Hein. J'arrive plus à marcher.
Alors, tu sors chez Camion Blanc un livre qui s'appelle donc X-Ray Pop, La Machine à rêver, post-mortem et post-mort bac. C'est sorti il y a quelques mois donc, chez l'édition Camion Blanc. Alors, dans ce livre, on retrouve une biographie de X-Ray Pop.
Oui, en fait, le livre, initialement, on avait avec Jocelyn Herbelot, le peintre, on avait fait un travail commun qui paraissait chaque semaine dans TMV, qui était la présentation d'une de nos idoles. Lui peignait le portrait et moi, je faisais un texte relatif à mes affinités. Mais quand l'éditeur a pris connaissance de... C'est en fait en prenant connaissance de ce travail qu'il est venu vers nous. Et c'est ensuite qu'il m'a le demandé, il m'a dit « Moi, je voudrais aussi avoir la biographie d'X-Ray Pop ». Donc il a fallu que j'écrive au mois de décembre dernier.
Et donc dans ce livre, il y a les chroniques dont tu parles qui étaient dans TMV. On trouve aussi des nouvelles plutôt psychédéliques, je pense.
Oui, parce qu'il y a tout un volet. J'ai écrit quelques romans qui étaient publiés comme ça sur le net, mais sans vraiment... avoir d'ambition là-dedans, mais tout était basé bien sûr sur du psychédélisme et avec beaucoup de gens que je connais qui apparaissent dedans, beaucoup de gens qui sont morts d'ailleurs, et qui eux étaient très psychédéliques. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils sont déjà morts.
On va en parler du psychédélisme tout à l'heure justement, parce que c'est un petit peu au centre d'X-Ray Pop aussi.
Oui.
Donc comment on en est arrivé à cette interview? Alors ça fait longtemps que j'en parle donc à Anthony et Mélissa qui font aussi le quota. Puisque donc tu es quand même une certaine figure de la vie musicale tourangelle. Tu as vu quand même passer pas mal de concerts aussi.
C'est le privilège de l'âge.
Voilà.
Ceux qui survivent, après, ils ont vu beaucoup plus de choses que ceux qui sont morts.
Dans le livre, justement, on retrouve énormément d'anecdotes, de choses assez hallucinantes. Donc voilà, je te propose une interview un petit peu chronologique. Voilà.
Comme tu veux.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter tout simplement comment tu en es venu à la musique?
En fait, je ne suis pas venu à la musique dans l'idée de copier des idoles. D'abord, je suis un amateur de musique depuis toujours. C'est-à-dire, dès l'âge de 12 ans, je traînais chez les disquaires, je bouquinais les Bess, Rock et Folk. Je sortais d'un milieu où on n'avait pas vraiment les moyens d'acheter des disques. On en achetait rarement. Donc, j'allais faire ma culture chez les disquaires, c'est-à-dire... à passer beaucoup de temps là, chez eux, en sortant et en achetant rien, mais en écoutant beaucoup de choses. Si bien que c'est là que ça a commencé, et faire de la musique n'est une option qui est arrivée que dans la grande adolescence, et un peu par hasard, en ayant des copains qui, eux, faisaient de la musique.
Et après, tu as eu le surnom de Doc.
Le surnom de Doc, et ça, m'a été donné par un batteur de Tours qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Foutre, hein, qui était un groupe emblématique du punk, qui a été réédité d'ailleurs il y a 4-5 ans par Euthanasia Records. Et ce batteur, qui avait quelques addictions, me disait que ma voix lui faisait l'effet du mandrax, c'est-à-dire le calmer quand il avait des problèmes de manque. Et donc, c'est lui qui a commencé à m'appeler le docteur, le doc, le machin, et c'est arrivé comme ça. Et il est mort d'une OD en août 1980. Voilà. Donc, il s'appelait Michel Bruno.
Et justement, comment est arrivé alors X-Ray Pop? Comment le projet s'est créé?
Ah, X-Ray Pop, ça arrive bien après, mais à mon début dans les activités musicales. Les activités musicales démarrant vers 1976... et étant donc totalement impacté par l'arrivée du punk, puis ensuite surtout du nouveau rock. Et là, je monte un groupe qui s'appelle Pepe Novo, qui va être initiateur, un des premiers groupes novo de France d'ailleurs. Mais à l'époque, il faut bien vous dire, on en parlait d'ailleurs hier avec un copain, à l'époque, il y avait très peu de groupes, très peu de structures, on n'était pas nombreux. Donc c'était plus facile d'être vu quand on faisait quelque chose d'original. Mais ayant survolé toute la période, on va dire, Cold, Novo et tout, qui nous amène vers 1983, là, à partir de ce moment-là, tout a été fait pour cette génération. Après, ce ne sont que redites et puis opportunités de carrière. Et voyant que tout le monde a fait le même style et a les mêmes looks, je décide d'aller totalement à l'opposé, c'est-à-dire de reprendre un nom, un terme totalement ringardisé, c'est-à-dire pop. Il faut vous imaginer que pop en 1983, c'est la honte. Donc je le reprends exprès et on prend des looks style chemise à fleurs et machin. C'est-à-dire on reprend une sorte de faux psychédélisme et c'est comme ça que naît X-Ray Pop.
Donc, concrètement, X-Ray Pop, ça a commencé quand, ça finit quand ? En termes d'années.
Ça commence donc avec la sortie du premier single en 1984. Et ça s'est fini d'un point de vue, on va dire, artistique, c'est-à-dire création artistique, parce qu'il y a en fait les deux notions sur les groupes. Tu as des groupes qui durent, et puis, mais qui n'ont plus de création artistique, c'est-à-dire ils vivent sur leur passé. On peut dire que nous, ça s'est arrêté en 2002, d'un point de vue créativité artistique. Après, il y a eu des formations qui ont continué à la scène, mais qui n'étaient que des formations qui reprenaient les morceaux. Il n'y avait plus d'albums. Si, il y a eu un album live avec Rubinsteiner, de fait, pour l'ouverture du Petit Faucheux, avec Rubinsteiner et tous les musiciens de jazz de l'époque qui étaient invités dedans. Mais on n'était que dans du live. Donc, on peut dire que c'est 1984-2002, où là, il y a une réelle créativité.
Ta vie musicale tourangelle, elle a été aussi marquée par des rencontres de gens qui sont devenus très connus pour tout à fait autre chose. Je pense peut-être à Bernard Campan.
Ah bah Bernard Campan, lui, alors là, ça nous reporte au moment où on m'appelle, on va me baptiser Doc. Parce que Bernard Campan, lui, faisait partie d'un groupe qui s'appelait Crystal. Oui, c'était entre 1978 et 1980. Et avec les frères Synthès, il était bassiste. Ce qui nous amusait beaucoup après, parce que en fait, on a tous été, on savait que Campan était passionné, bien sûr, de théâtre.
Il fait partie des Inconnus.
Bien sûr, c'est un des membres des Inconnus maintenant, et il était, c'était pas un garçon très drôle. C'était même pas un garçon drôle du tout. C'est ce qui nous avait été étonné parce que le succès arrivait très vite et quand on l'a vu apparaître dans un domaine drôle, ça nous a fait un drôle d'effet. C'est le mot. Et ensuite, quand il a fait ses films avec des personnages chargés et dramatiques, là j'ai retrouvé la personne que j'avais connue. C'est-à-dire quelqu'un qui finalement avait une intériorité, peut-être sûrement des problèmes. C'est marrant, hein, c'est marrant la vie.
La trajectoire de chacun est assez surprenante parfois.
Oui, c'est surprenant les parcours des gens par rapport au moment où toi tu les as connus et qu'ils étaient inconnus. Non, bon, un peu facile.
Il y a aussi une autre personne que tu as dû croiser, alors je ne sais pas si tu l'as vraiment rencontré, si tu étais ami avec, c'est Gilles Beauvallet, des Inrecuptibles.
Ah, Jean-Daniel, je l'ai connu quand il était étudiant à l'IUT à Tours, oui. Oui, Jean-Daniel, l'époque où il y a eu un passage du Petit Faucheux qui était dans la rue des Cerisiers, où le Petit Faucheux, pendant 2 ans, a été punk. Ça peut paraître bizarre. Hein.
Avant de devenir jazz.
Avant, en fait, de passer au jazz, oui. Et après une période babacool emblématique pour tous les gens qui ont vécu les années 70. Et là, Jean-Daniel venait au concert... Ouais, ce personnage passionnant, un jeune homme passionnant, c'est pareil, c'est pas du tout étonnant qu'il ait optimisé ses talents pour arriver et devenir important et surtout extrêmement utile. C'est quelqu'un d'utile. Le journalisme, tu es bien placé pour le savoir, a aussi cette donnée d'utilité. Elle peut être dans l'engagement humaniste, peut-être dans l'engagement aussi politique, mais dans l'artistique, il y a cette donnée d'utilité, de faire découvrir des choses, de porter des artistes méritants. On peut dire par exemple que Jean-Daniel a porté Björk, ça c'est une évidence. Morrissey aussi, mais c'était son pote alors que Morrissey était encore inconnu au bataillon. Et donc, oui, je pense que Jean-Daniel est quelqu'un d'utile. Je suis très admiratif.
Ce parcours tourangeau musical, il n'est pas seulement marqué par la création musicale de ton côté. Tu as aussi vu beaucoup de concerts. Et il y en a notamment qui m'a marqué dans le livre, c'est celui des Cure au Tanner. Alors ça m'a...
Ah oui,
alors, où est-ce que ça s'est passé exactement?
Là, on peut rejoindre le propos avec Jean-Daniel, parce que je peux te dire que ce jour-là, tous les gens qui allaient monter les Arts Occupés étaient là. Tous. Enfin, tous ceux qu'on reverrait après, et puis beaucoup de gens qui après feraient leur chemin dans le showbiz. Oui, c'est la tournée 17 Seconds, donc, où Cure place à la salle des Tanner.
C'est la salle Télème actuellement, c'est ça?
Hein?
C'est la salle Télème actuellement ou
Exactement, c'est la salle Télème. J'y suis retourné justement récemment pour voir un spectacle. Et j'ai été très surpris que ça soit si petit. Et je me suis dit, c'est pas possible que c'est là qu'on a vu Cure. Ouais, j'ai un copain technicien qui était à ce concert quand il était jeune. Et il me dit, chaque fois que j'arrive au Tanner, je pense à ça. C'était assez fascinant parce que c'était une musique qui était unique dans son époque, qui était très décalé. Alors les looks n'étaient pas décalés parce qu'ils étaient dans cette after-punk, mais il faut avouer que cette musique est dingue. On en est tous sortis très troublés. Il y a des gens qui en sont sortis aussi en disant que c'était très mauvais, dont Titi, qui ensuite rejoindrait les Béroriers Noirs, qui a comparé ça au Pink Floyd. C'est une simple anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre. Je la vois sortir en hurlant, oh, c'est du vol et tout. Et non, en fait, c'était le début d'une époque, tout simplement. Et là, on est en plein dedans. Alors après, ça allait donner que ce groupe serait copié par des milliers de groupes.
X-Ray-Pop a bénéficié d'une certaine notoriété grâce aux Beastie Boys.
Ah, totalement, oui.
Donc en fait, ils vous ont cité comme référence, comme source d'inspiration dans leur musique.
Oui, moi je ne connaissais pas les Beastie Boys parce que je ne suis pas de cette génération. J'étais passé totalement à côté. Et en fait, c'est un peu par les Inrecuptibles que c'est arrivé cette histoire. Parce que chaque fois que que JD, par exemple, interviewait les Beastie et tout, chaque fois, ils demandaient des nouvelles d'X-Ray-Pop. Même avant un concert très important à Paris, il me dit, ouais, ils m'ont appelé en disant, ouais, qu'est-ce que devient X-Ray Pop et tout le bazar. Donc c'était totalement surréaliste cette histoire, parce que je ne connaissais pas ce groupe, parce que c'était pas dans ma culture, j'étais passé à côté. Et donc c'est des gens plus jeunes de la génération suivante qui m'ont initié après, et qui au premier abord pensaient que je leur racontais des bobards. Mais moi, je le racontais tout simplement parce que je connaissais pas. Et il s'est avéré que je crois que c'est lors d'un concert à Nancy qu'ils ont été dans un magasin de disques et qu'ils sont tombés sur les premiers singles dont ils sont devenus totalement fada, avec le fameux titre « La machine à rêver ». Et d'ailleurs, en l'an 2000, ils ont fait un disque qui s'appelle « BS 2000 », qui est totalement inspiré d'X-Ray Pop. D'ailleurs, Virgin m'avait téléphoné ici parce qu'ils avaient demandé à Virgin de nous l'envoyer. Ils ont repris exactement le matos qu'on utilisait à l'époque. Ils ont exactement le même son et dessus, ils font leur boulot. Oui, ils ont, entre autres, parce que beaucoup de gens nous ont aidés. Nous, on a été énormément aidés. Mais entre autres, eux, ils ont éclairé la nouvelle génération. Voilà. Sur l'histoire X-Ray Pop et puis aussi les DJ après qui s'y sont mis.
On en revient aux Inrecuptibles. J'avoue que j'ai connu X-Ray Pop grâce à un hors-série qui est sorti il y a quelques temps sur les 100 meilleurs albums français.
Oui.
Et le centième de ces 100 albums, c'est X-Ray Pop Zoukaland.
Oui, alors ça m'a beaucoup amusé. Et j'avoue, je me demande si c'est du lard ou du cochon. Parce que, en fait, JD, entre autres, n'a pas voulu répondre à ma question. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un gag que vous avez fait. De nous placer au milieu de tous ces gens hyper connus et en position 100. Tu vois donc je ne sais pas pourquoi. En plus, le plus drôle, c'est que pour moi, c'est pas le meilleur album qui a été placé là. Sauf que ça va avoir peut-être une utilité parce qu'on était tellement productifs à cette époque-là qu'il y a un album totalement inédit qui est lié à cet album. C'est-à-dire, entre cet album-là, Zoukaland, et le suivant, Surrealistic Pilot, il y a un album qui n'est pas sorti, tout simplement parce qu'on produisait trop et que les labels ne pouvaient pas fournir. Donc voilà, peut-être qu'un jour on dira, bah oui, ça a été enregistré au moment où sortait le 100e meilleur album. Voilà. Mais c'est marrant, ouais.
Alors il y a un truc que tu dis souvent aussi dans le livre, la France ne s'est pas beaucoup forcément intéressée à X-Ray Pop. C'est surtout les pays anglophones.
Pas du tout, parce que X-Ray Pop, ça a commencé, comme je te l'ai dit, sur une provocation. Et donc c'est vrai qu'au niveau journalistique, ça peut être très compliqué, ce style de groupe. Déjà, j'ai voulu qu'on soit totalement décalé du son de l'époque. Donc d'entrée, c'est pas gagnant. Hein. Notre premier album que j'avais proposé à New Rose n'est pas sorti. Ils n'ont pas pris, j'ai été obligé de faire un single. Il est sorti maintenant aux USA, hein, il a été édité plutôt, à San Francisco. Mais oui, on nous a pris un peu pour un truc trop bizarre, trop barré. Et il n'y avait rien sur quoi se raccrocher. À l'époque, ça me mettait un peu en furie. Maintenant, je comprends très très bien pourquoi ça s'est passé comme ça. C'était très très compliqué aux gens de s'accrocher à quoi que ce soit, tellement c'était différent de ce qui se faisait à l'époque. C'était vraiment fait pour la génération suivante, en fait, je crois. Tout simplement.
En temps d'avance.
Oui, oui.
Une Joconde en Rangers joue au golf inhumain, tapant dans quelques têtes de bébés vénusiens.
Les joueurs écoutaient quoi à l'époque? C'était quoi leur référence?
Ah bah c'était tous les clones de Cure. On est en plein dans notre précédent propos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Cure fait 1750, tout le monde se met à faire du Cure. Et quelques autres du U2. Et entre les deux, t'as plus rien. Et heureusement d'ailleurs que l'alternatif arrive dans la deuxième moitié des années 80, où là, l'alternatif français, avec bien sûr les emblématiques Berlin Noir, fait rebouger le cocotier. Et puis après, heureusement que Nirvana arrive, fin 80, pour bousculer un peu toute cette léthargie où tout le monde se copiait les uns les autres.
Ce que tu dis aussi dans le livre, c'est que dans les années 80, t'as pas trouvé qu'il y avait forcément un grand...
Les années 80, pour moi, ça se termine en 1982. Les années 80, c'est de 1978 à 1982. Tu remarqueras qu'il se passe exactement la même chose pour la décennie précédente. C'est-à-dire, tout le créatif se fait entre 1968 et 72. Après, ce n'est que de la recopie et tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que les nouveaux mouvements arrivent, parce qu'on en a tellement ras-le-bol que maintenant, les gens, les générations qui suivent se disent « Non, on va faire autre chose ». Et donc le reste des années 80, non, d'abord c'est une période de course à l'argent, c'est l'opposé de ce que l'on vit actuellement dans la philosophie. C'est-à-dire là on était dans la surconsommation, voire dans l'arnaque roi, mais au niveau des gens, même du commun des mortels, quoi. Il y avait un très mauvais esprit, quoi. C'est terrible, hein. C'est terrible cette période. Tout le monde voulait être tapis, quoi. C'est une horreur.
C'était la référence à l'époque.
C'est un truc de fou. Je pourrais en dire beaucoup, mais je ne le dirai pas.
Dans le livre aussi, je reviens souvent à ce bouquin, tu expliques que tu n'as pas voulu notamment trop te lier à Paris. Tu as vraiment voulu que X-Ray Pop reste un groupe local, tourangeau.
Oui, je pensais que l'option d'attaque provinciale était importante, même si tout se faisait à Paris à l'époque pour les choses importantes. Et il fallait absolument s'identifier hors du truc, quoi, hors du mouvement parisien. C'était très important. Et après, quand la réaction française n'étant pas positive sur le groupe, j'ai tout de suite axé, mais vraiment très rapidement, dès 1984, vers l'étranger, à la fois l'Est, les pays de l'Est pour des raisons particulières, et puis bien sûr les pays anglo-saxons. Et j'ai eu la chance incroyable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de site, pas de réseaux sociaux, de rentrer dans une sorte de réseau mondial de l'underground, et particulièrement aux USA. L'intérêt étant que tous les gens avec qui j'étais en réseau en fait à cette époque-là, eh bien finalement sont tous restés dans le business et underground. Ouais, c'est paradoxal, hein, oui. Business underground, mais on peut vraiment parler de ça. Il y a une manière de faire pour réussir, pour faire passer l'underground. Et ces gens-là sont toujours présents sur le pont, ce qui fait que tout le maillage, on va dire, américain a été énorme, quoi. Énorme à cause que ces personnalités ont continué.
On va peut-être parler finalement de politique un petit peu. Il y a une figure de Tours que beaucoup de gens ont bien connue, c'est Jean Royer.
Oui.
Jean Royer qui était quand même connu pour être Père Lapudeur. Voilà, c'est quand même un état d'esprit qui est très différent de celui d'X-Ray Pop. Comment c'était de faire de la musique, de vivre la musique à Tours pendant que Jean Royer était maire?
Franchement, je pense pas que ça avait un... Alors, sur des formations comme les miennes, ça avait pas d'impact parce que nous, on était tellement décalés que ça aurait bien pu être des gens plus cool avec la musique. D'ailleurs, quand ils sont arrivés après, c'est pas pour ça que nous, on en a bénéficié plus que ça. Mais par exemple, pour les structures, faut se remettre dans cette génération. D'abord, Jean Royer, Père Lapudeur, il y a beaucoup de zones d'ombre. Hein. Là, c'est... l'histoire, on en reparlera plus tard. La seule chose que j'aime bien chez Jean Royer, c'est qu'il a son boulevard. Parce qu'avant, c'était le boulevard Thiers, et Thiers, c'était tellement une ordure que je suis vraiment content, au moins, qu'il ait pris la place. Je sais pas, je pense que ça nous rendait extrêmement réactifs, par exemple. Et il faut bien avouer une chose, malgré cette situation où nous n'étions pas du tout aidés par les politiques, pas vu, voire même méprisé, pris pour rien, en fait, a permis d'être extrêmement hargneux, réactif, monter ses propres structures. C'est comme ça que Radio Béton se monte et qu'Au Quart de Tour se monte avec 2 francs 6 sous, que les groupes se démerdent entre eux. En fait, ne pas avoir besoin de la municipalité parce que l'on sait qu'elle ne fera rien, ça peut être un plus. Ça s'est fait dans pas mal d'endroits. Alors après, bien sûr, la mise en place des structures permet de monter une scène. Parce que là, on ne pouvait pas avoir de scène comme il y avait, par exemple, à Rennes, parce qu'on n'était pas aidé.
Alors là, je passe à un tout autre sujet. On va reparler de psychédélisme. C'est difficile de parler de psychédélisme sans parler de drogue, puisque la notion du psychédélisme est un petit peu liée...
Oui, la notion du psychédélisme est très liée à Aldous Huxley et les portes de la perception.
Voilà, le LSD, hein, concrètement.
Le LSD, ouais. Tout à fait.
Est-ce que dans le livre, tu en parles
un petit peu Moi, j'ai une...
Quel rapport t'as eu avec ça, en fait? Est-ce que t'en as vraiment eu ou pas du tout?
Ah, moi, pas du tout. Mais par exemple, j'ai été entouré d'énormément de gens, oui, qui... Beaucoup de gens sont passés près de moi qui étaient... accro, pas mal sont morts. Moi, je suis passé au travers pour une raison tout à fait particulière, c'est que je suis, on va dire, un petit peu médium. Voilà. Et depuis le plus jeune âge, j'ai des flashs. Je vis presque dans un univers parallèle par moment. Et en quelque sorte, moi, j'ai jamais eu besoin de drogue pour être décalé. Pour voir des trucs, c'est-à-dire que je vois réellement des événements qui vont se produire plus tard. Des fois, j'y crois pas, et en fait, quand je les vis, je suis obligé de dire « bah oui, c'était vrai ». Des trucs, par exemple, le fait que je signe un morceau avec Robert Wyatt, qui était mon idole, je me voyais 10 ans avant en train de poser ma signature sur la feuille SACEM. Et je dis à ma copine de l'époque, je viens d'avoir un flash totalement stupide et tout. Et ça s'est fait. Voilà. Bon, entre autres, voilà, des trucs comme ça, ça arrive. Donc moi, j'ai fait au contraire très attention de ne pas toucher aux drogues psychédéliques parce que je voulais surtout pas taper ce don. Mais en même temps, certaines personnes très branchées dans le style locaux disaient à l'époque, Didier, lui, il a besoin de rien prendre, il est totalement dans les nuages, il est déjà tout seul. Voilà, alors après, sur la notion du psychédélisme appliqué à l'artistique, je pense qu'il y a aussi une notion d'être décalé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'histoire des drogues, il y a l'histoire d'être différent. Tu vois, par exemple, j'aime beaucoup Philippe K. Dick comme auteur. On est en plein dedans. Alors, on sait que Philippe K. Dick était quelqu'un, un adepte donc des drogues planantes. Mais
c'est l'homme du Haut-Château, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Ouais. C'est lui aussi qui a fait un livre qui a inspiré Blade Runner. Ubik, voilà aussi.
Ouais. Ouais. Oh, bah, y a après, je crois, il y a 150.
Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Beaucoup de science-fiction.
Oui, oui, je conseille à tout le monde de lire K. Dick. Hein. Ça se lit toujours très bien. John Brunner aussi, dans le style. Enfin, toute cette période, justement, des gens issus du psychédélisme. Tu vois, par exemple, tu as un groupe comme les Mothers of Invention de Frank Zappa. Au début, c'était signifié comme étant sur la vague psychédélique. En fait, c'est Zappa, pareil, il était un mec qui n'était pas accroché à la cam, qui était entouré de gens qui parfois pouvaient y être. Mais surtout, c'était l'idée de faire différent, l'idée de donner une autre lecture du monde. En fait, c'est ça. C'est ce qui explique un peu Huxley, d'ailleurs. Donc, à la limite, quand tu es un peu médium comme je suis, tu as cette autre lecture, c'est-à-dire tu vois tu vois plusieurs comment. C'est comme si tu avais plusieurs films en même temps. Hein. Ce qui me laisse d'ailleurs à penser que le temps ne se voit pas sur la longueur, mais en circulaire. Je pense que toutes les époques sont vécues ensemble. Sinon, ça serait impossible, par exemple, de faire des prédictions. Ou alors de voir les incarnations précédentes, c'est mon cas. Et quand j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'être sollicité pour aider des gens avec ces dons-là, et comme je ne me trompais pas, j'ai vraiment réellement pensé qu'on est vraiment dans ce côté qui est très démontré par la mécanique quantique et tout le cirque, c'est-à-dire que tous les univers sont en parallèle. C'est-à-dire que ton passé, il est déjà là, ton présent est déjà là, et toi, tu es là dans la minute, mais finalement, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu sais que ça explique beaucoup de choses, hein, mais ça, c'est un sujet vraiment hors musical.
Justement, dans la musique, tu as parlé de Robert Wyatt, il y a aussi François Hardy qui a écrit un morceau.
Oui, alors François Hardy, moi j'étais en relation épistolaire avec elle depuis le 1990, et elle me conseillait beaucoup sur mes boulots, ces trucs, j'ai envoyé des textes, elle était toujours très très dure. Mais à cette époque-là, j'étais encore dans l'underground, quoi. Et au moment où on a signé avec Warner pour faire 6 albums, là, j'estimais, parce que c'est de mon côté que ça se passe, hein, j'estimais que je pouvais lui demander d'écrire un truc pour X-Ray Pop. Et donc, elle m'a envoyé 3 textes. J'en ai gardé un seul dans l'idée que je me suis dit, ce qui l'a un peu étonné d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était cadeau, hein. D'habitude les gens doivent faire des démarches pour ça, mais nous il n'y avait pas d'intermédiaire, c'était royal.
Elle n'a pas reconnu les morceaux.
Et donc j'en ai gardé qu'un parce que je me suis dit si je prends les 3 je vais me faire totalement démolir. Ah, c'est bizarre, hein, ça. C'est-à-dire que quand tu es dans ce domaine, il y a des manières de faire, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont là pour des raisons X ou Y. Et que toi tu puisses comme ça sans intermédiaire, parce que j'ai bien vu déjà la réaction qui a été à Warner quand j'ai dit ah bah oui, Françoise qui écrit un texte, déjà ça leur paraissait totalement dément parce qu'il n'y avait pas eu d'intermédiaire. Et donc j'en aurais mis 3, ça aurait été sûrement très difficile. Là on est dans de la relation humaine. Hein.
Voilà, ça montre aussi une véritable indépendance de ta part et de venant du groupe aussi.
Alors là, pour les gens, on va dire, connus qui ont participé à X-Ray Pop, c'est totalement grâce à cette indépendance. Totalement grâce à cette indépendance, parce qu'ils savaient où ils mettaient les pieds. Par exemple, quand Jacques Naud est venu faire un truc avec X-Ray, c'est parce que François Hardy en avait parlé. Tout était je me suis rendu compte après coup qu'en fait, ils discutaient tous entre eux. Yves Simon, pareil, quand j'ai fait des trucs avec Yves Simon, c'est parce qu'il avait vu François Hardy. Tout était lié. Et ils savaient qu'ils venaient dans une sorte d'expérience artistique. Ce qui pour eux les amusait beaucoup et je sais pas, c'était peut-être gratifiant pour eux. Et surtout, ça n'avait rien à voir avec le showbiz. Et ça les explosait totalement.
Dans ton livre, tu dis aussi que justement, tu n'avais pas cette envie d'être connu, reconnu, c'était pas ton objectif.
Ah, non, j'ai jamais eu de fantasme de. Sinon, je l'aurais été, hein, tout simplement. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans cette logique-là. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour aboutir, rentrer dans le métier, mettre un peu d'eau dans leur vin. Moi, mon choix, ça a toujours été. J'ai eu, par exemple, si j'avais une ambition à partir du moment où j'ai fait de la musique, c'était de laisser des traces. Mais pas de laisser des traces dans la mémoire populaire, mais laisser des traces dans l'underground. Et là, ça va, c'est réussi.
Plutôt satisfait.
Ça va.
Là, j'en viens à la musique francophone. Tu dis dans donc, X-Ray Pop, La Machine à Rêver, le livre que tu as sorti, que Lily Drop, Monde Animal, c'est le meilleur album rock français de tous les temps.
Ah, sûrement, ouais, sûrement. Je l'ai d'ailleurs ici en plusieurs exemplaires, vinyle, et il n'y a pas de réédition CD, donc j'ai fait mes CD et tout. Oui, c'est un album majeur avec le regretté Olive. C'est un album parfait, en fait. On peut pas le dire d'ailleurs de ce qu'ils avaient fait juste avant, qui était un peu, je pense, sous pression des labels. Je suis très étonné de cet album quand chaque fois que je le réécoute, tellement il est parfait en production, en écriture, en style. Et malheureusement, ça n'a pas marché.
Il y a pas une notoriété. J'ai appris l'existence de groupe aussi en lisant le.
Ouais.
Donc, il y a aussi Jacques Higelin, BBH75, dont tu parles.
Ah, BBH75, oui, ça c'est un album absolument dingue, parce que c'est l'album qui en fait amène le début des années 80 au milieu des années 70. C'est-à-dire Higelin qui est avec Brigitte Fontaine et Areski depuis le milieu des années 60 et qui fait une sorte de pop un peu casse-bonbon, quoi, style de l'époque. Décide tout d'un coup de mettre du rock. En fait, l'histoire est un peu plus compliquée. Elle démarre en Touraine. C'est-à-dire, Jacques Higelin vient passer du temps dans la ferme d'un musicien génial de Touraine qui s'appelait Alain Jacques. Et là, il y a une équipe de gens qui jouent avec Jacques à cette époque-là. Mais Jacques a de gros problèmes avec la drogue. Donc, il bouge très peu de chez lui. Mais c'est là que se bâtit cet album qui va devenir BBH. Et il y a beaucoup d'Alan Jack dans cet album, d'ailleurs, de l'époque, dans son style. Et là, Higelin change tellement de... Il donne la voix, il montre la voix. Il fait mieux que Jack faisait, parce que lui, il met des textes en français. Il prend les musiciens qu'avait Alan Jack à ce moment-là. Et c'est dingue, c'est fondateur, c'est un album fondateur.
Je suis amoureux d'une cigarette, toute la sainte journée, elle me colle au bec.
Que fais-tu maintenant ?
Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez marrant dans le destin, parce que quand on fait de l'underground, comme on faisait avec X-Ray Pop, on est aussi beaucoup dans sa bulle. Sa bulle, j'entends par là aussi tous ses amis underground du monde entier, ce réseau dont je te parlais, et on n'en sort pas beaucoup. On peut être même d'ailleurs un petit peu méprisant vis-à-vis de tout ce qui marche, de tous ces trucs-là, tu vois. On peut avoir des œillères. Et puis, quand Zouka Zaza et moi, nous sommes séparés, qu'on a donc arrêté le X-Ray Pop créatif, vers 2002, j'ai rencontré, donc, après, d'autres compagnes qui m'ont ouvert les yeux sur tout ce qui se faisait autour de moi, que je ne voyais pas, en fait. Et alors après, mon kiff, ça a été vraiment d'aller voir tout ce qui se faisait, aussi bien en art plastique, en théâtre, en danse, en musique, et de porter témoignage. Le porter témoignage est arrivé, bien sûr, 6 mois après. Hein. Il est arrivé au niveau des plasticiens quand je me suis rendu compte que ces tableaux que j'admirais, ces boulots que j'admirais, il y avait aussi bien sûr des tas de choses que je n'aimais pas et que je trouvais nuls, hein, mais ceux que j'admirais, ces mecs-là, on ne les connaissait pas, ces artistes-là, ces mecs et ces filles, en fait. Et il m'arrivait de les croiser par hasard, par l'intermédiaire justement de copines, et je me suis dit, il faut porter témoignage. C'est là que j'ai commencé à faire cette fameuse série des portraits Some People I Love, où je les interviewais. Je trouvais ça génial. Ça a commencé par donc les peintres, et après ça a continué avec la plupart des artistes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des chroniques dans le Parallèle, le gratuit qui s'appelait Parallèle, et des Tours et des Nuits d'abord. Et puis, comme ce biais-là m'a amené, bien sûr, à faire les chroniques à TV Tours depuis maintenant 6 ans, je crois, un truc comme ça. Le but étant d'aider au maximum tous les artistes. Donc de s'oublier, moi j'ai mis un peu de côté mon activité créative, on va dire, pour m'occuper vraiment quasiment à plein temps, pour repérer les nouvelles pousses. Ça a pu démarrer avec des gens comme Ézéchiel, après... enfin, dans chaque génération, n'importe comment il y en a. En ce moment, on pourrait parler de Grande, de Tevani, voilà. On voit apparaître des jeunes artistes et on fait notre possible pour les aider. Moi, mon but, enfin, mon action, c'est maintenant ça. C'est-à-dire d'aider les autres. Je suis gentil.
Merci beaucoup, Didier.
Salut, super.
Le quota, l'émission des musiques francophones, c'est terminé. L'émission est à retrouver en podcast sur radiocampustour.com et en rediffusion le vendredi à 8h45. On revient dans 2 semaines pour un nouvel épisode dédié à Raphaël Guattari, qui a signé sur le label magique La Souterraine. Et maintenant, je vous laisse avec le Tour Impro Club pour leur émission Les Improgrammables.